VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la présidentielle américaine 2016. La candidate démocrate à la présidence Hillary Clinton et son rival républicain Donald Trump sont repartis en campagne électorale aujourd'hui après leur deuxième débat hier soir à Saint-Louis dans le Missouri. Un affrontement unique dans l'histoire présidentielle américaine par la virulence et la teneur personnelle des attaques. Mais la dynamique électorale reste ce lundi favorable à Mme Clinton. Donald Trump avait besoin de briller pour rebondir après un week-end désastreux causé par la divulgation de ses propos dégradants sur les femmes tenus en 2005 et aussi pour stopper les défections au sein de son camp. Mais le miracle ne s'est pas produit. On écoute Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Je crois que Trump est assuré maintenant que les gens qui soutiennent Trump vont rester avec lui malgré cette histoire de vulgarité contre les femmes. Il a fait un bon débat et ces gens-là vont rester avec lui. Mais je ne crois pas qu'il a gagné sur des autres fronts. La plupart des femmes vont voter contre lui à cause de son attitude de non-respect des femmes. Donc, je crois qu'il a gagné le débat, mais pas suffisant pour gagner l'élection.
Sur la défensive, le candidat républicain Donald Trump a opté lors de ce débat tendu et acerbe pour un affrontement très personnel. Écoutez la réaction de René Lake, administrateur du site cneplus.com sur cette stratégie.
Une heure avant le débat, la campagne de Donald Trump a présenté une vidéo qui montrait Donald Trump entouré de 4 accusatrices du président Clinton, dont une qui l'accusait de l'avoir violée, d'autres de les avoir agressées sexuellement, etc. Et donc, il y a fait allusion, effectivement, au début du débat, mais je crois que la réponse d'Hillary Clinton était assez intéressante. Elle a paraphrasé Michelle Obama qui avait dit que quand l'adversaire réautorera des pâquerettes, il vaut mieux de son côté s'élever un peu et n'est pas allé très loin dans cet échange-là. Je crois que c'était sa stratégie. Mais au-delà de ça, je pense que tous les deux ont joué plutôt à mobiliser leur base. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas que Donald Trump ait gagné une voix de plus. Au contraire, je crois que en tout cas au niveau du leadership du Parti républicain qui attendait des excuses renforcées de la part de Donald Trump par rapport à cette question de la vidéo, ils ne l'ont pas obtenue et je crois que ça n'arrêtera pas l'hémorragie.
René Lake, administrateur du site cneplus.com. Afrique maintenant, l'Éthiopie a accusé ce lundi des puissances externes comme l'Égypte d'être à l'origine des violences sans précédent depuis un quart de siècle qui agitent le pays en région Oromo et ont conduit le gouvernement éthiopien à déclarer l'état d'urgence pour 6 mois. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement éthiopien, Gedachew Reda, accuse le Caire de financer et d'entraîner militairement le Front de Libération Oromo, un mouvement rebelle indépendantiste, et ce, dans le but de promouvoir les droits historiques de l'Égypte sur l'accès à l'eau du Nil. Addis Abeba construit depuis 2012 un immense barrage hydroélectrique sur le Nil bleu, dont l'Égypte, qui tire du Nil environ 90% de son eau, craint qu'il en affecte le débit. Plus de détails sur l'état d'urgence en Éthiopie avec Idriss Fall.
Cette mesure, en vigueur sur l'ensemble du territoire, est une première depuis 25 ans. La police est devenue plus visible, le réseau Internet mobile est coupé et les réseaux sociaux sont bloqués à Addis Abeba. Il y a une semaine, pendant un festival religieux au Romo, la police a usé de gaz lacrymogène, provoquant une bousculade qui a fait officiellement 55 morts. Depuis, les violentes manifestations se sont multipliées, des complexes touristiques, usines et fermes étrangères ont été incendiés, une ressortissante américaine a été tuée près de la capitale. Cette contestation sans précédent depuis la chute de Mengistu en 1991 est menée par les communautés Oromo et Amhara. Elles sont majoritaires dans le pays et se disent marginalisées par un gouvernement dominé par les Tigréens, originaires de la région nord du pays.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Afrique du Sud, de violents affrontements ont à nouveau opposé aujourd'hui des étudiants hostiles à l'augmentation des frais de scolarité aux forces de l'ordre. La reprise annoncée des cours a donc été très perturbée, Nani Talani.
Sur ordre des autorités, les cours ont bien repris ce lundi sur le campus de Wits à Johannesburg après 3 semaines de perturbations. mais ils ont été rapidement interrompus par des centaines d'étudiants en colère contre la hausse des frais de scolarité. La police et la sécurité privée sont intervenues contre des manifestants qui jetaient des pierres. Les forces de l'ordre ont fait usage de grenades lacrymogènes et assourdissantes, de balles en caoutchouc et des canons à eau pour les disperser. Les responsables de la faculté de Wits affirment qu'ils n'ont d'autre choix que d'essayer de sauver l'année universitaire. Les cours ont aussi été perturbés à l'université de Stellenbosch dans le sud-ouest. L'université du Cap, deuxième ville du pays, est restée fermée. L'université du KwaZulu-Natal dans l'Est a annoncé la suspension des cours jusqu'à nouvel ordre en attendant le retour au calme.
Le Burundi a décidé de quitter la CPI, la Cour pénale internationale, une décision adoptée par le gouvernement qui doit encore être examinée et approuvée par l'Assemblée nationale. Il y a une semaine, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a ouvert une enquête sur les crimes commis dans le pays et la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a lancé un examen préliminaire, notamment sur des meurtres, tortures et viols. Bujumbura estime qu'il s'agit d'un complot de la communauté internationale. Pour analyse de la situation, Eric Manirakiza a joint à Londres Karina Tertsakian, chercheuse de l'Organisation de défense des droits humains Human Rights Watch, sur le Burundi.
Ce serait une mesure vraiment regrettable, hein. Regrettable, mais peut-être pas tout à fait surprenante, hein, parce que malheureusement, le gouvernement burundais, chaque fois qu'il y a des critiques par rapport à la situation des droits humains dans le pays, réagit de manière négative et même hostile. Hein. Par exemple, il n'y a pas longtemps, lorsque le comité contre la torture des Nations Unies faisait son examen de la situation au Burundi, la délégation burundaise ne s'est même pas présentée le deuxième jour pour répondre aux questions.
Qu'est-ce que Bujumbura a à perdre dans tout cela ?
Il semble que cette décision du gouvernement burundais est liée ou provoquée par la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui a adopté une résolution créant une commission d'enquête internationale. Il semble donc que certaines autorités burundaises craignent peut-être que cette commission d'enquête ne mène par la suite, hein, d'autres enquêtes et éventuellement des poursuites au niveau de la Cour pénale. Mais à notre avis, une décision de se retirer serait plutôt un signe de faiblesse et montrerait que le Burundi a quelque chose à cacher.
Le gouvernement de Bujumbura dénonce un complot de la communauté internationale. C'est cette motivation qui a entraîné la décision de retrait.
Ils peuvent parler de complot, mais chacune de ces organisations a travaillé de manière tout à fait indépendante et a tiré les mêmes conclusions.
Y a-t-il un intérêt à rester au sein de la Cour pénale internationale ?
Absolument, il y a un intérêt important pour le Burundi. Tout d'abord, si le Burundi veut vraiment démontrer son engagement par rapport à la justice, par rapport au respect des droits humains, la Cour pénale internationale actuellement est en train de mener un examen préliminaire de la situation au Burundi. Ce n'est pas une enquête en tant que telle, c'est la première étape. On ne sait pas encore si ça va aboutir sur une enquête, mais si jamais la Cour décide de lancer une enquête, le Burundi devrait coopérer pleinement avec cette enquête. Ce serait donc dans son intérêt de participer pleinement à cette initiative.
Karina Tertsakian à Londres. Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, Cheikh Hag Aoussa, numéro 2 du HCU à l'Euro Conseil pour l'unité de l'Azawad, des ex-bras droits du djihadiste Iyad Agali, a perdu la vie dans une explosion. Les premières informations indiquaient que son véhicule avait heurté un engin explosif, mais certains partisans de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, ex-rebelle à dominante Touareg, rejettent cette hypothèse et exigent l'ouverture d'une enquête pour clarifier les circonstances de son décès. La MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, exhorte toutes les parties à éviter des spéculations infondées et agir avec retenue dans le cadre de cette affaire. Et puis au Sénégal, Cheikh Mbaké Sako, un jeune chef religieux sénégalais qui a critiqué les puissantes confréries religieuses musulmanes du pays et a accusé les marabouts de tromper les fidèles, sera jugé demain pour injure contre la religion. Dans une vidéo diffusée sur Internet, il s'en était pris tout particulièrement au leader de la puissance confrérie des mourides, les accusant de s'être détourné de la voix du fondateur du mouridisme, Cheikh Amadou Bamba. Cheikh Mbaké et Sako avait ensuite présenté ses excuses dans une autre vidéo sur la contrainte de fidèles mourides dont certains, selon les médias, voulaient le lyncher. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.